Merci. Le Seigneur Jésus remporte la victoire sur nous en nous amenant, vous et moi, à prendre la place du pécheur. C'était une phrase particulière que les chrétiens de l'Afrique de l'Est aimaient dire. Est-ce que toi, tu sais prendre la place du pécheur ? Je suis quelqu'un qui prend la place du pécheur. Et vous ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour vous aider, nous allons lire deux textes bibliques. D'abord, le texte biblique d'où ils tiennent le mot clé pour eux, c'était le brisement. Car être amené par Jésus à prendre la place du pécheur, c'est être brisé. Brisé et contrit au sujet de mon péché. Donc, le premier verset que nous allons voir ici, si quelqu'un peut nous montrer le premier diapo, c'est dans le psaume 51. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. C'est David qui prit cette prière de confession après avoir péché avec Bathsheba. Tu n'agrées pas d'holocauste, les sacrifices agréables à Dieu, ce que Dieu veut, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit au Dieu, tu ne le dédaignes pas. Ça, c'était un des passages bibliques, une parole de Dieu que les Africains à cette époque ont pris pour eux, mais que chacun de nous doit prendre cette réalité. Sachez-le bien, chers amis, qu'un cœur brisé par son péché et contrit, Dieu ne dédaigne pas. Le deuxième texte, je le donne parce que ça va vous donner une image visuelle. Vous connaissez probablement la parabole du pharisien et du publicain, n'est-ce pas? Et le publicain, c'est un homme de mauvaise vie. Hein? À la fin de cette parabole, c'est Jésus qui raconte que le publicain, le collecteur d'impôts, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il est au temple. Il est tellement désolé pour son péché contre son Dieu, il n'ose même pas lever les yeux comme les autres, mais il se frappait la poitrine et il disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, le pécheur. » Est-ce que vous voyez l'image? Cet homme est désolé pour ce qu'il a fait envers son Dieu. Et il prend la place du pécheur. Sois apaisé envers moi ou aie pitié de moi. Littéralement, en grec, le verset dit aie pitié de moi ou sois apaisé de moi, le pécheur. Moi, le pécheur. Ouganda, Tanzanie, Kenya, Rwanda, Burundi, partout dans ces pays, quand Dieu est venu dans sa puissance, des hommes et des femmes et des jeunes. Des personnes qui n'avaient pas été converties et qui le sont devenues, et des personnes déjà converties depuis longtemps, tous se courbaient devant Dieu et disaient « Moi, le pécheur. » Maintenant, il faut que je vous dise qu'est-ce que c'est qu'un cœur brisé. Parce que le texte avance et on peut le regarder. Un cœur brisé et contrit, c'est le cœur qui nous amène à dire « moi le pécheur », c'est quoi? Eh bien, un cœur brisé, c'est le contraire d'un cœur dur. Le cœur dur, c'est quoi? Vous avez un cœur dur si, quand votre conjoint ou votre conjointe, votre enfant ou votre parent ou votre ami vous reprend pour une mauvaise attitude, vous vous êtes irrité, vous avez été égoïste, vous avez été jaloux, orgueilleux ou n'importe quoi, on vous reprend ou Dieu vous reprend, le cœur dur dit c'est pas ma faute. Non, je ne l'ai pas fait. Oh, c'était pas intentionnel. Mais j'ai été provoqué. Mais c'est lui qui a... C'était parce que j'étais fatigué. Ça, c'est le cœur, ça, c'est le cou raide. Ça, c'est le cœur dur qui refuse de dire « Oui, c'est ma faute. Moi, je suis le pécheur. » Le cœur contrit, c'est le contraire. C'est la personne, quand Dieu vous reprend, pardon, que vous ne l'aimez pas, ou quelqu'un vous reprend, que vous n'avez pas été aimant, ou fidèle, ou honnête, ou juste, votre réaction devant Dieu et devant les autres, c'est ma faute. Pas d'excuse. Il y a très peu de personnes dans le monde, et même dans les églises, qui vivent de jour en jour comme cela. Combien de fois ma femme a dû prendre une demi-heure, parfois même une heure, pour me convaincre que ce que je lui avais dit était blessant et mauvais. Combien il a été difficile pour moi d'apprendre au fil des années de la vie chrétienne à ne pas avoir le cou raide, la justice propre, et de dire tout simplement « pas d'excuses, pardonne-moi ». Je ne sais pas où vous en êtes, entre conjoints, entre parents et enfants, et surtout entre vous et le Dieu avec qui vous avez affaire. Le message du réveil de l'Afrique de l'Est, c'était que cette position, si on peut aller au prochain encore juste avant, oui, excusez-moi, oui, la position du publicain, c'est pas une position juste au moment de la conversion, et comme beaucoup de chrétiens pensent, on quitte le pied de la croix, on vient au Seigneur au pied de la croix, je suis pécheur, mais devenir chrétien mûr, c'est quitter cette position, et je ne suis plus là, contrit, désolé. Mais les chrétiens en Afrique de l'Est disaient, non, c'est exactement le contraire. Le chrétien qui grandit, qui est de plus en plus mûr et spirituel, c'est celui ou celle qui vient facilement faire le retour à la croix et dire facilement, c'est moi qui suis fautif. Pas d'excuse. Nous pouvons voir cela, par exemple, dans la vie de Job. Rappelez-vous, Job était l'homme le plus juste sur la face de la terre, n'est-ce pas? Mais après avoir marché avec Dieu pendant des années, des décennies, le voilà qui dit à un moment donné, « Je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre la place du pécheur. Ésaïe, le grand prophète, nous l'entendons à un moment dire, « Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah, prendre la place du pécheur. Et Paul dit, c'est une parole certaine et digne d'être reçue, que Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver des pécheurs dont je suis. Il n'a pas dit dont j'étais, il dit dont je suis le premier. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre la place du pécheur. Vous avez peut-être une question. Pasteur, mais est-ce que cela veut dire, si on reprend souvent la place du pécheur, contrit, brisé devant Dieu, est-ce que ça veut dire que on n'est pas en train de grandir dans la sainteté, on pêche autant qu'avant, et ce n'est pas grave parce qu'on peut simplement reprendre la place du péché. Non, pas du tout. David dirait, oh là là, non, quand j'ai pris la place du pécheur, je n'étais pas nonchalant au sujet de mon péché, j'étais plutôt dévasté par mon péché. Et Job dirait, non, ça ne veut pas dire que je ne grandissais pas dans la sainteté. Le fait que je reprenne la place du pécheur, ça veut dire quelque chose de plus profond. Ça veut dire que le péché en vous, chers amis, et en moi, est comme un oignon. Vous savez, quand vous enlevez une couche d'un oignon, il y a une autre couche. Et quand vous enlevez ça, il y a une autre couche. Il y a une autre couche. On grandit. Et oui, on laisse derrière nous certains péchés, n'est-ce pas, en grandissant. Mais qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons qu'il y a des péchés qu'on n'avait jamais vus, comme un iceberg, n'est-ce pas, en dessous de la surface. Nous voyons des attitudes, des mobiles, des motivations d'orgueil, d'égocentrisme, une froideur de cœur envers les autres. Nous creusons plus loin, nous voyons combien peu nous voulions vraiment la gloire de Dieu et combien on voulait notre propre gloire. Je vois ça, je vois ça, je parle pour moi. Et maintenant, de plus en plus, on comprend que, oh là, j'ai besoin de souvent revenir à la place du pécheur. Ça change complètement un mariage. Ça change complètement une relation entre colocataires. Ça change complètement une relation entre enfants et parents, parents et enfants. Un homme chrétien qui était un leader dans une église m'a dit une fois, je ne demande jamais pardon à mes enfants. J'étais bouleversé. J'ai dit, mais comment est-ce que tu fais? Il a dit, je dois avoir l'autorité dans ma maison, donc je ne peux pas m'abaisser devant mes enfants, mais quand ils voient que mon comportement change, ils savent que je me suis repenti. Par exemple, s'il avait été irrité avec ses enfants. Quel malheur! Quel malheur devant Dieu! Mais simplement, il ne voulait pas prendre la place du pécheur. Et je peux vous dire que cela a été une catastrophe pour ses enfants. Comment est-ce que tu sais que tu es en train de prendre la place du pécheur? D'abord, peut-être que tu n'es pas encore chrétien, tu ne l'as jamais pris. Tu n'es jamais venu au pied de la croix de Jésus devant Dieu en disant « J'ai péché contre toi, je n'ai pas d'excuse, j'ai besoin d'être converti et pardonné. » Si vous n'avez jamais fait cela, regardez votre cœur, regardez ce soir même, car peut-être c'est le moment pour vous de prendre le chemin que Jésus indique. Sans ce chemin, vous êtes une personne au cou raide. Vous êtes une personne qui refuse de prendre la place du pécheur et vous êtes sur le chemin de la perdition éternelle. Il est impossible que vous soyez en relation amicale avec votre Dieu si vous refusez de prendre la place du pécheur que vous êtes devant lui. Avez-vous aimé Dieu de tout votre cœur? C'est le premier commandement. Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre pensée, de tout votre esprit, de toute votre force. Et vous aimerez, ou tu aimeras, ton prochain comme toi-même. Devant de tels commandements, je suis dévasté. Nous le sommes tous, n'est-ce pas? Combien nous avons fait de tort Mais peut-être vous êtes chrétien. Comment est-ce que tu sais que tu prends la place du pécheur? Je regarde. Ça, c'est mon avertissement. Je veux maintenant juste prendre 5 ou 6 minutes pour finir. Hein? D'accord? Donc, comment est-ce que tu sais que tu es un chrétien qui prend la place du pécheur? Que tu connais ce brisement? Je vais vous dire 4 choses. Quand tu pèches et que tu es repris par Dieu ou par quelqu'un d'autre, tu cesses de minimiser ton péché. De minimiser. C'est quoi minimiser mon péché? C'était une erreur. C'était une gaffe. Désolé pour ce faux pas. N'est-ce pas? C'est de minimiser ça et ne pas l'appeler « j'ai péché contre toi ». Par exemple, « ah oui, j'ai exagéré ». Non. Je suis vraiment désolé, mais je t'ai menti. Il y a une différence entre les deux, n'est-ce pas? Je t'ai menti. Ah oui, excusez-moi, j'étais blessé. Non. Pardonne-moi, je me suis vraiment fâché contre toi. Et donc, vous pouvez voir combien il est facile pour nous de changer le nom de nos péchés pour diminuer le vrai sens et ne pas vraiment prendre la place du pécheur. Combien de fois je l'ai fait, n'est-ce pas? Mais j'apprends. Nous pouvons voir, oui, ici vous avez... J'ai oublié de vous dire, mais là, c'est une image qui vient vraiment du réveil de l'Afrique de l'Est. C'est une photocopie. Et donc, là, c'est en anglais parce que c'était surtout des pays anglophones. Mais le verset dit « Not I, but Christ ». Non pas moi, mais Christ. Mais le « I » en anglais, ça veut dire « je ». Et vous voyez que c'est une lettre qui est raide. Donc, nous avons un homme au cou raide là qui refuse d'avouer son péché. Et on dit non pas cela, mais cela. Le C qui commence le mot Christ, c'est l'homme courbé. C'est pour ça qu'il y a un C. Il est courbé devant Dieu. Il ne minimise plus. Il n'excuse plus. Vraiment, c'est le chemin du mensonge. De la galère, de la misère, des problèmes avec le Dieu qui nous aime. Et donc, on apprend à détester la minimisation de nos péchés. Donc, prochain diapo. Le fils prodigue ne minimise pas quand il rentre chez lui, n'est-ce pas? Il dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. N'est-ce pas? Imaginez un fils prodigue qui revient chez vous ou que vous reveniez chez vos parents après avoir péché et que vous parliez ainsi. C'est vraiment prendre la place du pécheur. Deuxième verset. David dit, « Je reconnais mes transgressions. » J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Et nous disons parfois à Dieu, nous devons dire, Seigneur, tu seras complètement juste dans ta sentence si tu me punissais. Deuxièmement, Tu es en train de prendre la place du pécheur quand non seulement tu ne minimises plus, mais tu ne justifies plus ton péché. Tu ne justifies plus. Alors, qu'est-ce que Adam a dit quand Dieu lui a repris pour avoir mangé de l'arbre interdit? Il a dit, « La femme que tu m'as donnée m'a donné le fruit de l'arbre. » Il justifie son action. Il y avait une bonne raison pour que je fasse cela, c'est que elle m'a donné, qu'est-ce que je pouvais bien faire? ne voulais pas être en désaccord avec ma femme, n'est-ce pas? Et nous sommes experts pour justifier nos péchés, n'est-ce pas? Vous avez un enfant qui se fâche contre l'autre et vous lui parlez. « Oh, je suis désolé, j'étais fatigué. J'étais fatigué. » Ou bien, pensez à une autre excuse, une autre moyen. « Oui, 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 mais il m'a provoqué. » J'étais au bout de moi. C'était plus fort que moi. Et je ne pouvais rien faire d'autre. Et tout cela, c'est simplement une manière de dire, en fait, je suis juste. Je ne suis pas le pécheur. Je ne suis pas fautif ou coupable. Je n'ai pas été indigne. J'avais une bonne raison. J'avais raison et pas tort. N'est-ce pas? Et cela, c'est le péché des péchés. C'est le péché des péchés. Parce que Dieu peut pardonner tout pour l'homme qui avoue avec contrition. Mais pour l'homme qui refuse d'avouer le péché, il n'y a simplement pas de pardon. Et c'est pour cela que les Africains, dans le réveil de l'Afrique de l'Est, ont saisi que prendre la place du pécheur est absolument clé pour ta vie chrétienne, pour ta piété. Le retour à la croix. Troisièmement, tu es en train de prendre la place du pécheur quand tu cesses de faire pénitence. Quand on prend la place du pécheur, on se repent, on se détourne de notre péché, mais on ne fait pas pénitence. Vous savez la différence? La pénitence, c'est ce que font les catholiques, par exemple, c'est-à-dire que j'essaie de réparer moi-même mon péché. J'essaie de payer quelque chose pour être moins redevable devant Dieu. Je vais vous donner deux manières dont on le fait. Premier moyen, parfois, tu pèches. Tu as fait ce péché 1000 fois et tu le fais encore. Ou tu fais un péché très grave. Tu as regardé quelque chose, tu as pensé quelque chose, tu as dit quelque chose, tu as fait quelque chose vraiment mauvais. Et qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta première impulsion de dire à Dieu? Seigneur, aide-moi à ne plus le faire. Ça, c'est la pénitence. Tu ne fais pas face à ce que tu as fait. Tu lui parles de l'avenir. Et tu essaies de dire, Seigneur, aide-moi, je ne vais plus le faire. Tu veux avoir une justice à toi-même, une justice propre qui appartient à l'avenir, mais quand même, c'est ta justice, n'est-ce pas? Et tu veux qu'il t'accepte parce que tu négocies, hein? Je ne vais plus le faire. Tu veux venir à Dieu, non pas en tant que pécheur avec les mains vides, je n'ai rien à recommander, j'ai besoin de la grâce. Plutôt que de faire ça, tu dis, Seigneur, aide-moi à ne plus faire. Quand on va au tribunal et un criminel passe en procès, est-ce que pendant le tribunal, on parle de son comportement futur? Pas un seul mot. Le tribunal s'en fiche. N'a rien à faire avec « est-ce que tu vas continuer à faire ça dans l'avenir ?» Ça, c'est une question qui vient plus tard. La question maintenant, c'est « est-ce que tu as fait ça dans le passé ?» Parce qu'il y a des gens meurtris, volés, violés. Et la première chose n'est pas ton avenir et ton changement. La première chose est que tu te repens de ce que tu as fait déjà. Occupe-toi de ce que tu as fait déjà. Et obtient le pardon de Dieu. Ensuite, un homme pardonné peut avoir la grâce et l'aide de Dieu. Mais nous voulons présenter un avenir meilleur à Dieu, n'est-ce pas? Ou bien, parfois, tu veux simplement souffrir quelques heures ou quelques jours avant d'être vraiment pardonné. Tu as fait cette chose, tu l'as fait 1000 fois et tu te sens tellement coupable que tu te dis, non, je ne peux pas être pardonné tout de suite et pleinement. Le sang de Jésus-Christ est moins puissant que ton péché. La justice du Fils de Dieu est moins grande que ton injustice. Mais ce que tu veux vraiment faire, c'est que tu veux souffrir un peu, parce que pour toi, les souffrances de Jésus sur la croix ne sont pas la solution unique. Tu as le cours raide, tu as la justice propre, tu refuses de te courber et de dire « je n'ai aucune excuse, j'ai besoin tout simplement d'un sauveur ». La dernière chose, et c'est le dernier mot, c'est que tu es en train de prendre la place du pécheur quand tu cesses de dissimuler tes péchés. Dissimuler les péchés, c'est-à-dire ne pas les laisser exposer, les garder un peu cachés. Les chrétiens en Afrique de l'Est disaient ceci. Ils disaient, la vie d'un homme est comme une maison. Une maison a un toit et des murs. Et quand on est non-chrétien, on a ce toit bien en place et les murs pour cacher ce qui est dedans. Dieu ne doit pas voir ce que je fais et ce que je pense, ni les hommes. Mais dans le réveil, qu'est-ce qui arrive? On enlève le toit et on dit « Dieu, voilà ce que je suis ». Mais ils ont compris que ça ne suffit pas. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là. Le toit entre eux et Dieu, peut-être entre vous et Dieu, vous êtes transparent. Mais envers les autres, vous les faites penser que vous êtes bien meilleur que ce que vous êtes. Et ils disaient que pour avoir le réveil spirituel dans ta vie, il faut enlever le toit, mais il faut faire tomber les murs. Et donc, souvent, quand il fallait, il confessait aux autres. On ne confesse pas tous les péchés à tout le monde, on est bien d'accord, hein, il y a des choses à ne pas dire à tout le monde, mais il y a des choses qu'on doit dire quand on offense, quand on fait mal à quelqu'un. Ou même quand on a péché, qu'on n'arrive pas à vaincre, on cherche un frère ou une sœur mûre pour leur dire « Voilà ce que je suis. J'ai un problème avec ça. Je ne voudrais même pas te le dire. Mais ça, c'est moi. Ce n'est pas hors de caractère, c'est mon caractère. Je prends la place du pécheur. Prie pour moi. » C'est radical, c'est dur. Et il n'y a que Jésus qui puisse vous amener à avoir ça comme style de vie. Et il faut que ce soit la victoire de Jésus sur vous. Et c'est une chose qui tient à faire. On prie. Notre Dieu, nous voulons nous courber devant toi en te remerciant pour le Fils de Dieu qui s'est courbé à la croix, qui a été tellement désolé à notre place pour nos péchés, qui n'a pas ouvert la bouche à la croix, qui était comme un agneau, qui ne s'est pas justifié, qui ne s'est pas excusé, mais qui a pris toute notre saleté sur lui, contrit, brisé, parce que nous ne l'avons pas été nous-mêmes. Et maintenant, Seigneur, parce que tu as fait ça, et parce que tu as subi ça, nous aussi, nous voulons être contrit, nous voulons nous courber devant toi et te reconnaître véritablement nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur, de nous avoir justifiés devant toi et les autres, minimiser nos péchés, cacher nos péchés, et nous prions que tu remportes cette victoire sur nous. Et moi, je te prie, le premier, Seigneur, que je puisse de plus en plus avoir ce cœur brisé, contrit, que tu ne dédaignes pas. Amen.